Voulez-vous ouvrir votre Bible au livre de Job ? Évidemment, Job est un livre de 42 chapitres. Nous serons obligés de faire à certains moments des analyses, car il nous faut évidemment englober dans notre étude la totalité du livre pour le comprendre, car le livre a une signification, n'est-ce pas ? Il y a une grande unité dans ce livre et nous sommes obligés par conséquent de prendre tout le livre. Seulement, nous analyserons certains passages, nous ne pourrions pas étudier tout verset à verset. D'ailleurs, ça n'aurait pas peut-être vraiment une trop grande utilité. Eh bien, je vais commencer par vous parler de ce livre et vous parler du personnage qui fait le titre du livre, Job. Job est un personnage historique. La théologie moderne a voulu en faire un personnage fictif, n'est-ce pas ? Mais il est réellement historique. Et il pourrait avoir été l'un des fils d'Issacar, lui-même fils de Jacob. Ce fils d'Issacar dont nous parle Genèse 46:13, je dis il pourrait parce que nous n'avons pas de certitude absolue, mais enfin il y a une forte présomption pour cela. 46:13, fils d'Issacar, Tola, Puva, Job et Shimron. De toute manière, notre personnage vécut au cours de la période patriarcale. Et nous pouvons situer son existence et l'événement que rapporte le livre entre la mort d'Abraham et la naissance de Moïse. C'est-à-dire que du temps d'Abraham, cela ne s'est pas produit, ce que nous allons trouver dans le livre de Job, et cela se produit avant la naissance de Moïse. Un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque, un ouvrage anglais appelé The Companion Bible, indique que Job serait mort en 1516. Je ne sais pas comment ils ont pu trouver ça. En général, ce livre a des renseignements très étudiés, très exacts. 1516 avant notre ère, bien entendu. Moïse aurait eu alors 55 ans, et à ce moment-là, il se trouvait en Madian, auprès des Madianites. Job est cité, en tout cas, par le livre d'Ézéchiel, qui le regarde comme un personnage réel, ayant vécu, un personnage historique. Et par aussi l'apôtre Jacques, dans son chapitre 5, qui donne la patience de Job en exemple. Il faut aussi remarquer que deux des trois amis de Job, avec lesquels nous aurons à faire connaissance, ses deux amis s'appelant Eliphaz et Baldad, descendent, eux, d'une façon certaine, d'Abraham. D'autre part, nous pouvons noter que Job est antérieur à Moïse, car aucune allusion n'est faite aux faits qui se sont passés après l'Exode. Donc, l'événement rapporté dans le livre de Job est antérieur à l'Exode. Par contre, nous trouvons dans le livre de Job des allusions à la création, à la chute de l'homme, aux géants, au déluge, à la ruine de Sodome, et cela situe bien, n'est-ce pas, les événements du livre. Job devait avoir environ 70 ans. Lorsqu'il fut frappé, et il vécut encore 140 ans après, nous dit le chapitre, la fin du livre, chapitre 42. Job offrait des holocaustes et exerçait donc les fonctions sacerdotales des patriarches, chefs de tribus. On peut considérer donc qu'il était patriarche et chef de tribu. Jacques parle de lui en le voyant comme un prophète dans son chapitre 5, ce qui se comprend par les paroles qui lui sont attribuées dans le livre que nous allons étudier et qui sont celles de son témoignage à lui. Il a montré comment son cœur révolté s'est en fin de compte soumis à Dieu. Et puisque cela prend place dans la Sainte Écriture, nous pouvons en effet, comme Jacques, considérer que Job était lui aussi un prophète. Je suis obligé de vous dire quelques mots de l'appréciation généralement portée sur la valeur littéraire du livre, bien que nous soyons dans l'impossibilité de nous rendre compte nous-mêmes de cette valeur, puisque il faudrait pour cela être que nous soyons tous hébraïsants. Mais il est intéressant de se faire tout de même l'écho de ceux qui, pouvant évaluer le livre dans la langue originale, s'accordent à le regarder comme un chef-d'œuvre. Et notons ce qu'en a dit notamment Lamartine, qui vivait au XVIIIe siècle, enfin il est né à la fin du XVIIIe siècle et mort au XIXe, dans un ouvrage intitulé « Le cours familier de littérature ». Voici comment s'exprimait Lamartine. « La langue du livre de Job est l'hébreu le plus limpide, le plus serré, le plus classique. On y trouve toutes les qualités du style ancien, la concision, la tendance à l'énigme, un tour énergique et comme frappé au marteau. Cette largeur de sens, éloignée de toute sécheresse, qui laisse à notre esprit quelque chose à deviner, ce timbre charmant qui semble être celui d'un métal ferme et pur. » Voilà une appréciation qui a sa valeur. D'autre part, le livre de Job est considéré comme un poème. Je dis considéré parce que dans l'hébreu, ce n'est pas facile toujours de se rendre compte, de distinguer, si vous voulez, la prose de la poésie. En français, nous savons le faire. Mais dans l'hébreu, ce n'est pas facile du tout. Et il n'est même pas toujours facile de dégager les strophes les unes des autres. Alors, il est considéré comme un poème, cependant d'une facture très spéciale qui ne s'apparente à aucun de nos genres classiques. On peut relever ceci, la concision du style extrêmement concis, la beauté des images, la richesse des descriptions, et ce livre a fait, au cours des siècles, l'objet d'une admiration quasi universelle. Bien sûr, les traductions en français ou d'autres langues n'en rendent qu'imparfaitement la magnificence. Dans la poésie hébraïque, il faut savoir que la rime n'est pas usitée. Et fort peu de rythme, d'ailleurs, dû à un nombre de syllabes données. Les pieds, n'est-ce pas? Il n'y a pas ces pieds qui font la cadence de nos vers. On ne trouve pas cela, ou très peu. La forme poétique se dégage, par conséquent, surtout du style. Elle découle de certaines répétitions, de certains contrastes d'idées. Voilà, n'est-ce pas, comment on peut dire que Job est un poème. Je devais quand même vous dire ces choses pour que vous puissiez, bien sûr, les retenir et avoir cette pensée, tout à l'honneur de Dieu, que même en inspirant des auteurs, Dieu a pu faire œuvre littéraire, une œuvre littéraire étonnante. Car en définitive, ce n'est pas l'auteur inconnu du livre de Job que nous allons glorifier, mais c'est Dieu qui a inspiré cet auteur, n'est-ce pas, et a permis qu'il étonne le monde entier par ce chef-d'œuvre de la langue hébraïque. Nous allons commencer la lecture du livre, et nous avons dans d'abord les chapitres 1 et 2 qui forment ce que l'on appelle un prologue ou une introduction. Un prologue parce que les récits qu'ils contiennent préparent l'action qui va se dérouler et dont nous allons avoir la relation, et les faits qui constituent le contenu du livre et le but du livre. Le but du livre, c'est de nous exposer certains faits qui vont avoir un sens pour nous et nous guider vers une certaine conclusion. Lisons les 5 premiers versets. Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Les chapitres 29 et 31 nous montrent comment Job était intègre et droit devant Dieu, s'appliquant avec régularité à plaire à Dieu. Sa crainte de Dieu apparaît surtout dans la crainte d'un châtiment. Il faut voir comment cette crainte de Dieu qui lui est attribuée se manifestait, à quoi elle correspondait. Eh bien, il y avait déjà vraiment une crainte, c'est-à-dire presque, disons, une peur. Et là, n'est-ce pas, je ne prétends pas définir ce qu'est aujourd'hui la crainte de l'Éternel, mais il faut tout de même que quelque chose subsiste de ce qui est vraiment crainte, n'est-ce pas? En tout cas, là, il y avait donc une crainte vive du châtiment de Dieu, d'un Dieu qui aurait été offensé, qui aurait été par conséquent courroucé. Il y avait aussi le grand besoin d'une protection de Dieu, et Job désirait cette protection pour lui-même et ses enfants. Il y avait aussi ce qui conditionne la vie heureuse, ce qui permet de jouir de la notoriété dans son entourage. Job prêtait tout cela à Dieu. Il savait que son bonheur tenait à Dieu et que s'il jouissait d'une grande notoriété, et c'était le cas, eh bien, il la devait à Dieu. Alors, cela paraît très bien. C'est bien, effectivement, mais nous verrons que ce n'est pas parfait. Nous verrons qu'il manquait à cela quelque chose, mais en tout cas, ce quelque chose était en soi bien. C'est pourquoi, n'est-ce pas, l'Écriture nous dit que, et d'ailleurs l'Éternel Dieu devant Satan va l'affirmer encore, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Job voulait aussi que Dieu reconnaisse son intégrité. Nous allons jeter un œil sur les deux chapitres que je vous ai cités, à savoir 29 et 31. Nous anticipons sur notre lecture pour voir un peu ce qu'était cette crainte de Dieu chez le personnage qui nous intéresse. Chapitre 29. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. » Voyez-vous, Dieu me gardait. « Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. » Voyez-vous, n'est-ce pas, ce que Job apprécie, c'est que Dieu, la lampe de Dieu brillait sur sa tête, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'il était vraiment l'objet d'une attention toute particulière, on peut même dire l'objet d'une certaine gloire, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente? Voyez-vous, Job, n'est-ce pas, appréciait au plus haut point ces choses. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, ce qui signale l'abondance, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ces arbres, ces oliviers fournissaient une récolte magnifique, abondante. Il y avait donc tout cela, en tout cela, les manifestations de la bénédiction constante de Dieu. Et Job y tenait beaucoup. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me laissais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais, l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Vous voyez, dans sa crainte de l'Éternel, il faisait aussi ce qui est bien. Il se détournait du mal pour faire ce qui est bien. La veuve et l'orphelin, il en prenait soin. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. On peut bien sûr déjà relever que Job le sait trop, le dit trop hautement, n'est-ce pas? Mais enfin, c'était tout de même un fait réel. Je ne parle pas de ce qui est dans l'âme de Job, mais vraiment dans la société où il vivait, c'était vrai, n'est-ce pas? Tout cela était littéralement vrai. Et voyez au verset 18, « Alors je disais, je mourrai dans mon nid. » Mes jours seront abondants comme le sable, je mourrai dans mon nid. Il est bien mort dans son lit, mais non sans être passé par la souffrance. L'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. C'est une figure, n'est-ce pas? Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. L'on m'écoutait et l'on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Et puis alors, au chapitre 31, nous lisons ceci. « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Quelle part Dieu m'eût-il réservée d'en haut? Voyez-vous, n'est-ce pas, comme il sait que s'il avait fait des choses déplaisantes à Dieu, il aurait pu être puni, châtié. Quelle part Dieu m'eût-il réservée d'en haut? Quel héritage tout-puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes. et il reconnaîtra mon intégrité. Et puis, au verset 23, « Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. » Enfin, je ne vais pas plus loin, nous reverrons ces passages. Mais relevons, n'est-ce pas, déjà maintenant, que dans cette crainte de l'Éternel, il y a énormément, en grande place, la crainte du châtiment de Dieu en cas d'acte ou de parole ou d'une conduite en général qui eût déplu à Dieu. Et il faut tout de même, chers amis, la méditation d'un livre de l'Écriture, et de celui-là en particulier, nous oblige à faire des remarques, hein, n'est-ce pas? C'est ça, méditer. Il faut penser. Eh bien, remarquons que à cette époque, c'est-à-dire avant la loi du Sinaï, l'on savait beaucoup de choses sur la différence à faire entre ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Il n'y avait pas la loi. Et l'on situait déjà fort bien le péché, d'un côté le mal, dont il fallait se détourner, de l'autre côté le bien. C'est étonnant, n'est-ce pas, de voir cela. Il y avait par conséquent déjà, vous voyez, une révélation de la volonté de Dieu qui était étendue. Comment cette révélation était-elle parvenue? Il y a là un mystère, puisque la Bible ne nous dit pas, ne nous donne pas de détails. Nous savons que à partir de Moïse, n'est-ce pas, il y aura la loi et nous avons la loi. Alors là, nous savons comment la révélation s'ouvre devant le peuple d'Israël, mais auparavant, pour les patriarches, vous voyez qu'ils avaient une révélation. Peut-être cette révélation a-t-elle eu un caractère intuitif, c'est-à-dire est-elle venue directement dans les cœurs, n'est-ce pas, ce qui est fort possible. Pourquoi Job, qui est donc intègre et droit, et qui s'applique à plaire à l'Éternel, pourquoi est-il partiellement abandonné de Dieu et surtout livré à l'ennemi, à Satan? Pourquoi cela? C'est une question, évidemment, qui se pose immédiatement, et c'est ce qu'il faudra comprendre par la méditation de tout le livre. Il faudra pouvoir répondre à cela. Le but du livre, ce sera de répondre à ça. Pourquoi Dieu livre-t-il Job à l'ennemi, le fait-il traverser ce temps de souffrance? Pourquoi? Eh bien, nous devrons pouvoir le dire lorsque nous aurons terminé notre méditation. L'insinuation de Satan que nous allons trouver bientôt dans les versets suivants, l'insinuation de Satan qui est celle-ci, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, que Job exerce la crainte de Dieu? Eh bien, cette insinuation a un certain bien fondé. Elle a un certain bien fondé. Nous y reviendrons. Certes, l'Éternel est bien celui dont dépend toute vie heureuse et exempte de souffrance. Et il importe de se concilier ses faveurs en faisant ce qui lui est agréable. Ça, c'est un principe que nous retrouvons partout dans le temps de la loi. Nous le retrouvons même dans le temps de la grâce. Et l'apôtre Pierre nous dit, quelqu'un veut-il avoir une vie heureuse? Eh bien, qu'il s'éloigne du mal, n'est-ce pas? Il y a constamment ce principe, nous le retrouverons. Cela donc est foncièrement vrai, c'est absolument vrai, mais nous verrons que l'homme ne peut pas vivre et trouver son salut dans cette seule forme de crainte de Dieu. N'est pas que cette forme de crainte de Dieu soit inexacte, non, mais il n'y a pas en elle le salut. L'homme n'y trouvera pas le salut. L'homme peut plaire à Dieu, en effet, s'il est intègre et droit, s'il pratique la crainte de l'Éternel, mais il reste l'homme de la chute. L'homme au cœur rebelle, quoique contenu par une sorte de discipline, il est une loi pour lui-même, l'homme est en quelque sorte, comme dit Paul dans les Romains, une loi pour lui-même, l'homme est contenu, mais son cœur reste celui de la chute, reste rebelle. Et puis l'homme reste séparé de Dieu, ne connaissant pas Dieu. Et c'est ce qui caractérise Job, il ne connaît pas Dieu, il le connaîtra à la fin, mais il ne le connaît pas. Dans cette vie qu'il mène, et qui pourtant est une vie qui plaît à Dieu, hein, il est même unique sur la terre à ce moment-là, il ne connaît pas Dieu et il vit quand même séparé de Dieu. N'oublions pas que le Seigneur Jésus va nous donner, lui, un grand, grand principe, nous révéler un grand principe, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est cela. Le salut, c'est cela. Il faut connaître intimement Dieu. Et là, Job ne connaît pas Dieu. Notons déjà cela, vous voyez, cela nous fait faire déjà un pas en avant. Notre texte nous dit que Job avait 7 fils et 3 filles, ce qui était déjà une certaine bénédiction, puisque à ce moment-là, on considérait les enfants comme étant la preuve d'une bénédiction de Dieu. Et puis, alors, il avait de grandes richesses, 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un grand nombre de serviteurs. C'était la richesse de ce temps. D'ailleurs, notons ceci, c'est assez caractéristique, c'est qu'en hébreu, il y a un seul et même mot qui signifie propriété et bétail. Et ce mot est mikné. Propriété, ça veut dire aussi bien propriété que bétail. Si bien que nous voyons, n'est-ce pas, ceci, c'est que, en somme, ce qui était la propriété, c'était d'avoir du bétail. Ça, c'était la richesse. Aujourd'hui, nous disons un propriétaire. Quand nous parlons d'un propriétaire et d'une propriété, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de terres. Hein. D'ailleurs, attention, cela a survécu longtemps, bien après Job, et jusqu'au commencement de notre ère, puisque dans le latin, nous avons aussi un rapprochement de mots entre ce qui signifie bétail et ce qui signifie argent. Bétail, c'est pecus, et argent, c'est pecunia. N'est-ce pas pecus? Pécunia. Vous voyez par conséquent qu'on considérait la richesse comme étant essentiellement constituée par du bétail. Les ânesses, c'est assez curieux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'on parle de 500 ânesses. Et comme disait quelqu'un, mais où sont les ânes? Eh bien, il n'y a que des ânesses là, et on ne cite que les ânesses. 500 ânesses. Il devait bien tout de même y avoir des ânes aussi, n'est-ce pas? Et alors, il y a là quelque chose d'assez amusant, c'est que, à ce moment-là, les ânesses avaient plus de valeur que les ânes, que les mâles, et c'est pourquoi elles sont seules mentionnées. J'ai noté quelque part qu'en Syrie, au XIXe siècle, le prix d'une ânesse était le triple de celui d'un âne. Alors, l'Écriture nous parle des ânesses et nous cite les ânesses parce que c'est elle qui faisait la valeur du troupeau. Quand il s'agit du troupeau humain, ce sont les hommes qui sont dénombrés et non pas les femmes. Mais ici, n'est-ce pas, dans ce genre de troupeau, ce sont les ânesses. Et Job était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. À côté de ses troupeaux, il disposait aussi de terres assez étendues, ce que le reste du livre nous apprend. Et Job, en outre, était écouté, il était consulté, nous venons de le voir. Dieu s'est assuré la prospérité matérielle tout autant que celle de l'âme et que celle des œuvres bonnes. Du bien, par exemple, lorsque quelqu'un fait le bien, il peut prospérer dans cette attitude, prospérer, aujourd'hui nous voulons prospérer spirituellement, essentiellement, ou prospérer en tant que témoin du Seigneur, mais Dieu assure aussi la prospérité, et cela est exprimé dans Ésaïe, Ésaïe 45, ce qui ne donne pas du tout raison à certaines voix qui, de nos jours, voudraient nous laisser entendre que nous, chrétiens, nous avons besoin de la prière qui se dit peut-être loin de nous, dans certaines chapelles ou par certaines associations, pour que nous puissions jouir plus amplement des biens matériels, ça absolument pas. Mais notons ceci quand même, n'est-ce pas, c'est que Dieu est libre d'assurer toute forme de prospérité. Voici ce que dit Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors de moi il n'y a point de Dieu, je t'ai saint. » Avant que tu me connusses, il s'agit là de Cyrus, n'est-ce pas ? Avant que tu me connusses, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Si l'Éternel crée l'adversité, tantôt la prospérité, c'est toujours enfin afin que la justice paraisse et soit manifesté, que les nuées laissent couler la justice et qu'il en sorte la délivrance. Job recherchait également pour ses fils et ses filles la protection de Dieu et il exerçait la crainte pour eux. Les festins auxquels les enfants de Job, les fils de Job, s'invitaient tour à tour, invitant aussi leurs trois sœurs, ces festins devaient avoir lieu périodiquement, peut-être une fois l'an ou deux fois l'an, nous ne savons, mais ils pouvaient être en effet des occasions scabreuses quant à la conduite de ces jeunes gens devant Dieu. Il y avait à ces festins, cela n'est pas douteux, de nombreux invités, et il durait plusieurs jours. Un festin, c'était en général une semaine. Il durait plusieurs jours, le vin y était abondant, et c'est au cours d'un festin somptueux, rappelons-le nous, qu'Hérode décida de faire décapiter Jean-Baptiste pour plaire à Hérodiade. L'orgueil, l'envie, les excès de table, l'impudicité pouvaient trouver occasion dans ces festins. Alors, c'est ce que Job redoutait, et après de tels festins, il appelait ses enfants à des purifications. Il nous est dit qu'il sanctifiait ses fils, il les appelait à des purifications, et ensuite, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. À ce moment-là, l'Holocauste était un sacrifice de valeur expiatoire, mais plus tard, il deviendra une offrande à l'Éternel, parce que dans la loi de Moïse apparaîtra un sacrifice particulier au péché, sacrifice d'expiation. Job va donc au-devant de tout péché susceptible d'avoir été engendré dans le cœur de ses enfants, et il pense aux possibles offenses qu'ils ont pu faire à Dieu. Et nous allons encore méditer sur les chapitres, les versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voilà un événement qui se passe dans le ciel et non plus sur la terre. Alors, la connaissance de cet événement qui est relaté dans notre texte biblique et ne peut provenir que d'une révélation. Et il y a d'autres exemples à cela. Dans le premier livre des Rois, on voit aussi la relation d'une certaine scène qui se déroule devant Dieu. Il y a un conseil qui s'établit devant Dieu. Dans le premier livre des Chroniques, nous voyons aussi que Satan excite David à faire un certain dénombrement. Donc, il y a un peu, de temps à autre, ouverture sur le ciel, l'entourage du Dieu très haut. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu, ce sont les anges dont le terme qui est générique signifie messager, des messagers. Ce sont les messagers de Dieu. Ils accomplissent des missions. Et ici, nous voyons que Dieu tient conseil. Il tient conseil. Cela se retrouve aussi dans le livre de Jérémie au chapitre 23, dans le livre de Zacharie au chapitre 3, mais je ne veux pas examiner tous ces parallèles sur le moment. Dieu tient conseil. Les hommes tiennent conseil, un monarque, un chef d'État, quel que soit son titre, tient conseil. Et pourquoi Dieu ne le ferait-il pas ? Dites-moi. Ça nous fait quelque chose. Il y en a qui ont dit, c'est extraordinaire que quand même Dieu tienne conseil. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de tenir conseil. Il n'a pas le droit de réunir autour de lui les créatures qu'il a faites, dont il se sait. Il n'a pas le droit. Moi, je pense que c'est plutôt les hommes qui l'imitent, plutôt que Dieu imitant, n'est-ce pas, la terre. Il tient conseil et Satan, dont le nom signifie ici l'adversaire. D'ailleurs, il y a un article dans l'hébreu, et en réalité, on devrait traduire le Satan. Mais enfin, c'est aussi un nom propre. Le Satan, l'adversaire. L'adversaire qui est l'ennemi des hommes qui recherchent Dieu, qui les calomnie et les accuse. Il accuse le juste de Dieu. Mais il faut poser ici une question qui l'a été très souvent. Et cette question, la voici. Pourquoi Satan est-il admis à ce conseil qui se tient devant Dieu? Et pourquoi lui, la créature si haute autrefois, tombée si bas, la créature qui a livré son cœur à l'orgueil, comment se fait-il qu'il puisse avoir accès auprès de Dieu? Et nous voyons dans le texte qu'il représente la terre. Nous avons un représentant. Heureusement que Dieu nous en a donné un autre. Mais un autre dont le royaume n'est pas encore de ce monde. Mais il est, lui, notre roi. N'est-ce pas? Nous voulons qu'il règne sur nous. Mais auparavant, nous avions pour roi, pour prince, Satan. Et les hommes ne se rendent pas compte qu'ils ont un prince qui est Satan. Il représente la terre et nous voyons aussi dans notre texte qu'il ne semble pas du tout avoir été convoqué, car il est dit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel » parce qu'ils avaient été appelés à cela, bien sûr, convoqués. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Là, n'est-ce pas, nous voyons le changement d'allure du récit qui nous montre que c'est Satan qui lui dit « Ah tiens, les autres viennent représenter sans doute d'autres mondes. Nous savons que les anges et les étoiles sont liés dans l'Écriture, au point qu'il est quelquefois parlé des anges par le moyen du mot « étoile ». Et beaucoup ont pensé, je le pense aussi, que les anges habitent ce vaste monde, tout au moins des planètes dans ce vaste monde, c'est tout ce que nous pouvons en dire. Mais alors, il est possible, n'est-ce pas, de considérer ici que ces anges viennent représenter le monde des anges réparti en différents points, en différentes demeures. Et alors Satan décide, lui, de se présenter devant Dieu aussi. Pourquoi pas moi? Moi, je représente quelque chose dans l'univers de Dieu. Alors, il se présente, il n'est pas convoqué. Il vient, en somme, avec audace au milieu des anges fidèles. Il faut dire que Satan conserve un grand pouvoir. Et il sait que Dieu ne va pas le juger avant le temps. Il le sait. N'oublions pas que Satan dispose d'une très haute intelligence que Dieu ne lui a pas retirée. Il sait que Dieu ne va pas le juger avant le temps, et c'est pourquoi les démons diront à Jésus « Ne nous envoie pas dans l'abîme avant le temps ». Parce que, attention, ce n'est pas l'intention de Dieu, ça. Et Jésus ne les envoie pas dans la Bible. Il les envoie dans les pourceaux, lesquels descendent dans la Bible, dans la mer. N'est-ce pas? Mais enfin, c'est différent. N'est-ce pas? Voyez. Alors, là, il sait cela. Par conséquent, il n'éprouve aucune gêne. On peut dire, n'est-ce pas, que vraiment, Satan, gonflé de son orgueil, on peut dire que il n'a aucun scrupule, il n'éprouve aucune honte. Il viendra, il se montrera aussi avec aisance à Jésus. Il va parler à Jésus, il sait qui est Jésus. Il va même pousser l'audace jusqu'à lui dire, eh bien, renie Dieu et prosterne-moi, toi devant moi, et je te donne tous les royaumes de cette terre, ils m'appartiennent. Quelle audace! Vous voyez que Satan est armé d'une audace effrayante, n'est-ce pas? Il poursuit, en somme, sa voie en rival de Dieu, car il s'est fait le rival de Dieu. Il a dit, je serai semblable au Très-Haut, je serai semblable au Très-Haut. Il veut même s'asseoir sur le faîte des montagnes de Dieu. N'a-t-il pas d'ailleurs en main tous les royaumes de la terre, des royaumes qui lui appartiennent, et Jésus, qui l'entend prétendre cela, ne le reprend pas. n'est-ce pas? Jésus ne lui dit pas, Satan, tu prétends avoir la possession de ces royaumes, mais c'est inexact. Non, pas du tout. Jésus le laisse, n'est-ce pas, dans cette possession, pour l'instant. Alors, que Dieu, l'éternel Dieu, le laisse approcher de sa personne, et même, consente à lui parler, cela a quelque chose d'étonnant. Cela a étonné beaucoup de chrétiens. Et il y en a qui m'ont posé cette question, mais enfin, comment se fait-il que Dieu laisse venir Satan qui a commis le mal, qui commet le mal, l'auteur du mal, et qui par conséquent devrait être proscrit à toujours de la face de Dieu. Comment se fait-il qu'il puisse là apparaître? Alors un jour, un chrétien me posant cette question, je lui dis, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Dieu? Oh, mais en le voyant paraître, je l'aurais chassé immédiatement, loin de moi, j'aurais même employé la foudre pour l'éloigner. Je lui ai répondu, vous auriez fait la plus grande sottise qui puisse se faire. Ah, c'est qu'il faut tout de même comprendre les choses. Il ne s'agit pas de juger avec la jugeote humaine, n'est-ce pas? Se draper dans sa dignité à la place de Dieu, n'est-ce pas ce que nous aurions fait? Draper dans sa dignité et puis envoyer Satan, n'est-ce pas, bien loin? Non, non, ça aurait été une sottise. Dieu poursuit un dessein. Il faut que nous comprenions cela. Évidemment, si nous jugeons humainement, n'allons pas comprendre. Satan, n'est-ce pas, qui est le plus grand, mettons, des pécheurs, si vous voulez, appelons-le comme cela, n'est-ce pas, est là devant l'Éternel. Alors que nous autres hommes, qui sommes pécheurs aussi, sommes pécheurs par nature, eh bien, nous sommes séparés de Dieu. Et nous ne pouvons pas voir la face de Dieu. Mais lui, il comparaît. Eh bien, c'est que Dieu a un dessein. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Mais essayez de vous le faire comprendre, si vous voulez bien, n'est-ce pas, abandonner tout point de vue purement humain. Cela, en effet, nous révèle, avec d'autres textes bibliques, je ne vais pas vous les citer tous et vous faire une grande étude sur ce point particulier, cela nous révèle le dessein de Dieu, qui est de laisser Satan poursuivre son expérience impossible. Dieu laisse Satan poursuivre son expérience impossible. Si Dieu n'avait pas voulu que Satan poursuive son expérience, n'est-ce pas, il y a longtemps qu'il l'aurait jeté dans l'abîme, où il ira en fin de compte. Cette expérience de Satan est fondée sur l'orgueil, elle est fondée sur la haine, et Dieu le laisse poursuivre cette expérience afin qu'il démontre lui-même la folie d'une entreprise comme celle-là, et d'une entreprise qui aboutira fatalement à un effondrement et à une grande ruine. Il faut que les annales de l'univers portent cela, puisque Satan a engendré le mal. Avant lui, il n'existait pas, le mal n'existait pas. Dieu ne peut pas, lui, engendrer le mal, et il ne le veut pas, bien sûr, mais Satan l'a fait usant de cette grande liberté que Dieu donne aux hautes créatures qu'il fait, dont il s'entoure. Jusque-là, personne ne l'avait fait, Satan prend cette initiative, eh bien, il continuera son entreprise, il ira pendant tout le temps nécessaire, jusqu'à ce qu'elle montre quel peut être son aboutissement, et son aboutissement sera celui d'un effondrement et d'une ruine totale. Ainsi, Satan ouvre contre lui-même, et ne peut pas faire autrement, œuvre contre lui-même et ne peut pas faire autrement, si bien qu'il travaille à faire éclater, au regard de toutes les créatures, du ciel et de la terre, la sainteté et la gloire du seul vrai Dieu. Mettons-nous à la place, si vous voulez, des anges fidèles un moment. qui voient se produire cela, qui n'ont pas suivi Satan. Je ne parle pas de ceux qui suivent Satan, mais ceux qui ne l'ont pas suivi. Ils peuvent se dire, tiens, voilà ce chérubin protecteur aux ailes déployées, cette haute créature, on a dit souvent qu'en dehors de Jésus-Christ lui-même, bien entendu, n'est-ce pas, Satan était la plus haute créature que Dieu avait faite. Alors, voici qu'il prend cette initiative, il se donne un gouvernement, il se donne une autorité, il étend son autorité indépendamment de celle de Dieu, et même contre celle de Dieu. Si elle est indépendante de celle de Dieu, elle est contre Dieu, naturellement. Il fait cela. Et les anges peuvent se dire, va-t-il aboutir à quelque chose? À quoi va-t-il aboutir, n'est-ce pas? Une question se pose. Eh bien, il faut absolument que, puisque l'expérience est entreprise, elle montre à quoi elle va aboutir. « Hors de moi, dira plusieurs fois le Seigneur dans l'Écriture, hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Enfin, il faut bien que nous réfléchissions à cela. « Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir de Dieu. Il ne peut pas y avoir de gouvernement de Dieu. Il ne peut pas y avoir pérennité de ce qui existe hors de Dieu. Dieu tient tout en sa main, lui seul est capable de maintenir pour l'éternité même les œuvres qu'il a faites, qu'il a créées, soit les choses, soit les êtres qu'il a créés. Il faut que l'on puisse reconnaître l'impossibilité à jamais de toute rivalité prétendant se dresser contre Dieu. Il faut que l'on sache ça. C'est une grande affaire, ça. Une rivalité contre Dieu naît dans ce vaste univers. C'était inconnu avant. Bon, à quoi va-t-elle aboutir? Eh bien, Dieu veut qu'on le sache. D'abord, cela. Il faut que l'on reconnaisse l'impossibilité de tout bonheur, de toute éternité en dehors de Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et il ne peut pas y avoir de Dieu. Hors de Dieu, tout est mensonge. Et de Dieu seul peut émaner cette vérité absolue sur laquelle la perfection s'établit et sur la perfection la pérennité éternelle, la durée éternelle des œuvres de Dieu. Hors de lui, tout est mensonge. C'est pourquoi Jésus nous dira que Satan ne se tient pas dans la vérité et qu'il est le père du mensonge. Tout ce qu'il fait est à cette nature du mensonge. Et on peut le voir dans notre monde. Eh bien, qu'a fait Satan ? Le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, que nous n'allons pas lire maintenant, mais je le cite seulement, nous dit que Satan a corrompu sa sagesse par une vaine gloire et détruit en lui-même la vraie lumière. Il a détruit la vraie lumière, il est dans le mensonge, il se tient dans le mensonge, il ne peut pas se tenir dans la vérité. Mais il détient quelque chose. Il détient dans cette position de père du mensonge, il détient la puissance du mal, une puissance inconnue dans l'univers de Dieu avant lui, une puissance, la puissance du mal. Il la détient et il gouverne par le mensonge, par la ruse et par la séduction. Et c'est lui-même qui, en poursuivant son expérience, fermera à tout jamais la porte au retour d'une pareille entreprise. Non seulement il va en montrer l'impossibilité, il va montrer son aboutissement, effondrement et ruine, mais il rendra impossible tout recommencement d'une pareille chose. Et c'est ce que Dieu désire. L'univers de Dieu sera définitivement préservé d'une telle entreprise. Et Dieu n'aura pas besoin de le faire par autorité, car si Dieu use de son autorité, comme l'aurait fait ce chrétien tellement zélé, n'est-ce pas, et qui aurait voulu prendre la place de Dieu et puis expédier Satan d'un geste immédiat. Je vous ai dit que je lui ai répondu qu'il aurait fait la plus grave des erreurs, oui, bien sûr, parce que à ce moment-là, Dieu, s'il avait usé de son autorité, de son pouvoir absolu, s'interdisait d'avoir des créatures semblables à lui, des créatures auxquelles il puisse laisser liberté, la liberté est simplement obligée à lui par la puissance de l'amour. C'est ça que Dieu veut faire. Et c'est ça qu'il réussit à faire. Et c'est ça qui sera dans l'éternité lorsque Satan sera définitivement plongé dans les temps de feu. Lui et l'Antichrist et le faux prophète, eh bien alors, à ce moment-là, Dieu aura autour de lui des créatures, et nous-mêmes, les hommes, sauvés, la nouvelle humanité, avec les anges, nous serons semblables aux anges, et nous jouirons de cette extrême liberté, semblable à Dieu, liberté comme Dieu, mais pourtant, nous serons comme Christ qui était libre, nous ferons uniquement tout ce qui plaira à Dieu. Et c'est ça d'ailleurs qui sauvegardera notre liberté. Il faut comprendre ces choses, voyez-vous. Et Dieu va vers cela. L'univers de Dieu sera définitivement en dehors d'un tel retour. Dieu va donc, selon son dessein, se servir de Satan. Puisque Satan est venu, puisqu'il a fait cela, n'est-ce pas, et a établi le domaine des ténèbres et le domaine du mal, eh bien, Dieu va se servir de Satan pour produire, par exemple, telle ou telle épreuve dont le résultat contribuera au salut des élus de Dieu qui sont sur la terre et contribuera aussi à l'établissement d'un dossier contre l'adversaire. Je parle en termes juridiques, un dossier contre l'adversaire. Dieu accepte la lutte ouverte des ténèbres contre la lumière, du mal contre le bien, de Satan contre son Christ. Il accepte la lutte ouverte par Satan afin de la clôturer par une victoire unique et absolue, victoire que Jésus a déjà annoncée. Satan est déjà jugé, Satan est déjà condamné. Son dossier est déjà suffisant et il a mis le comble à son dossier. S'il manquait des pièces, il les a apportées en tentant le Seigneur Jésus, en dressant des embûches sur sa voie et en le poussant dans la mort, ce par quoi il a fait apparaître le salut et la victoire sur la mort, n'est-ce pas, vous voyez, il a fait une œuvre qui le trompe, mais il l'a faite cette œuvre. Et son dossier est là. Satan est déjà jugé, déjà condamné. Voyez l'œuvre de Dieu. Voyez comme il faut réfléchir à tout cet ensemble, chers amis. Sans quoi, évidemment, nous resterons avec nos petites questions que vous me permettrez d'appeler des bêtes. N'est-ce pas ? Nos petites questions élémentaires procédant simplement d'un petit examen purement humain. L'Éternel ne répugne donc pas à parler à Satan, mais il va diriger lui-même l'entretien. Dieu n'est surpris par rien du tout de ce qui se produit là, l'incursion de Satan au milieu des anges, du conseil. Ça ne le surprend pas. Dieu savait que Satan viendrait là. Il le savait, il l'attendait, et il va entreprendre un entretien dans lequel, d'ailleurs, Satan va lui-même se trouver engagé à une certaine attitude, une certaine action qui est caractéristique de son personnage, et par cette action, il s'accuse, lui encore, il accuse les autres, mais c'est lui, en définitive, qui se trouve accusé. As-tu remarqué, mon serviteur, Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan de répondre, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il vient, dit-il, d'abord de parcourir la terre et de s'y promener. Parcourir, c'est-à-dire de faire une inspection rapide d'ensemble et de m'y promener, c'est-à-dire de m'arrêter avec plus d'attention à tout ce qui en mérite et de regarder chaque chose de mon domaine sur la terre. Mais Dieu se saisit d'un seul sujet, Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job était une exception unique, et Job allait servir lui-même les desseins de Dieu pour tous les siècles à venir. Il fallait d'abord, c'était le dessein de Dieu, confronter Job à Satan. Comme plus tard, Jésus-Christ sera confronté lui-même à Satan. L'Esprit de Dieu emmène Jésus-Christ au désert pour être tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène Jésus au désert. La volonté de Dieu. Il faut faire cette confrontation. Il faut aboutir. Le dessein de Dieu, c'est cela. Mais Satan, avec toute sa puissance, est bien petit dans ce dessein de Dieu. On peut dire qu'en cela, Job, prépare de loin l'avenue de Jésus-Christ. Il est vu comme un grand juste dans l'existence qui est la sienne. Il est innocent. Et cependant, il va être accablé de maux par l'adversaire avec la permission de Dieu. Comme Jésus va être lui aussi accablé de maux et même englouti dans la mort avec la permission de Dieu, n'est-ce pas? Il y a, vous voyez, un certain rapprochement, mais on peut dire que Job prépare le temps de Dieu. Dire qu'il est un type, c'est pas un langage qui m'est très familier, cela, certains de vous le savent. Je n'aime pas trop dire cela, mais ce que l'on peut dire, c'est que l'expérience dans laquelle Dieu fait entrer Job prépare la venue de Jésus-Christ. Et bien d'autres expériences prépareront, mais c'en est une, n'est-ce pas, qui vont préparer la venue de Jésus-Christ et de l'œuvre de la rédemption par Jésus-Christ. Mais Job sert en cela les desseins de Dieu, comme je le disais, pour de longs siècles à venir. En réalité, si l'on parle de figure, Job sera plutôt vu comme la figure de tout homme, quel qu'il soit, qui veut que sa justice résulte de son intégrité propre et de sa droiture, et qui ignore encore qu'en lui-même couve l'esprit de la chute. Il ignore cela, Job. Il va l'apprendre, mais il l'ignore. Couve l'esprit de la révolte contre Dieu. Et Dieu le fera aboutir à une position tout à fait différente de celle du début ou du temps de sa souffrance. Il va aboutir à une position humble, à une position de repentance. Il va découvrir l'Éternel. Il va se voir misérable, il va se voir vraiment dans toute son absurdité, et cela, ce résultat, Dieu l'obtiendra en le faisant passer par la souffrance, et le faire passer par la souffrance, c'est Satan qui opérera la chose. Dans les limites que Dieu lui fixera, Satan va provoquer l'occasion de cette souffrance. C'est tout ce que Satan va faire, n'est-ce pas? Satan, en définitive, sert les desseins de Dieu. Ah, il y a bien des choses à comprendre, et vous voyez comme il faut que notre cœur soit au large pour comprendre de telles choses du livre saint, mes amis, et qu'il ne faut pas s'amuser à raisonner les choses qui nous sont révélées dans la Bible avec notre petite jugeote humaine, n'est-ce pas, d'un point de vue purement terrestre. Il faut s'élever. Nous continuerons ces choses demain. Amen.